France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il a remporté le Booker Prize en novembre dernier avec Cher, un roman presque clinique sur la trajectoire accidentée d'un jeune Hongrois étranger à lui-même. David Soloy sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, les midis rendent hommage à Bélatar. On a appris hier le décès du réalisateur hongrois. Il avait 70 ans, son dernier film en date, Le Cheval de Turin, avait remporté le grand prix du jury à la Berlinale. C'était en 2011. Avec mes invités, on va revenir sur l'œuvre de ce cinéaste désespérément humain, son noir et blanc, sa poésie. Poésie, œuvre sombre, profondément pessimiste pour certains, mais lumineuse et révoltée pour les autres. Et pour évoquer Bélatar, aujourd'hui je suis en bonne compagnie. Antoine Guillot, critique de cinéma et producteur de Plan Large sur France Culture, bonjour.
Bonjour Marie.
Corinne Maury, professeur des universités en esthétique du cinéma à l'université de Poitiers. Vous avez co-dirigé avec Sylvie Rollet l'ouvrage Bélatar, de la colère au tourment, publié en 2016 aux éditions Yellowknow. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et Damien Marguet, maître de conférence en études cinématographiques à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous avez co-écrit avec Mathieu Leric le livre « Bélatar, les métamorphoses d'un visionnaire » paru en 2023 chez Carlotta au sein du coffret DVD « Bélatar, le maître du temps ». Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous et à toutes d'être présents dans les midis aujourd'hui.
When I'm doing a movie,
quand je fais un film,
I'm listening only for one thing.
Je n'écoute qu'une seule chose.
I don't lie.
Je ne mens pas.
And that's the main issue.
C'est ça qui me guide, c'est ça le principal.
And the other things is really just coming behind.
Et tout le reste, ça vient après, vraiment.
All of my sensibility and all
et
of
toute ma
my nerves,
it tous mes
has,
nerfs
has to feel the people.
Doivent ressentir, atteindre ces gens.
If I'm not able to feel your pain,
si je n'arrive pas à ressentir votre chagrin, votre douleur,
in this case, better to don't do any movie.
Dans ce cas-là, autant s'abstenir. Faut pas faire de film.
If I see somebody who was humiliating,
si je vois quelqu'un qui est humilié
now,
et qui est en train d'être humilié maintenant,
it's painful for me.
Ça me fait souffrir.
And that's all. And this is really definitely.
Et tout est là, c'est le point de départ.
The main thing from the beginning until now, I'm doing always the same.
C'est ce thème récurrent qui me guide depuis le début.
In a little bit different.
Et je ne cesse de refaire le même film un peu différemment à chaque fois.
But the main issue is the human dignity.
Mais ce qui me guide et m'intéresse d'abord, c'est la dignité de l'homme.
Voilà la voix du réalisateur Bélatar, c'était en 2008. Sur France Culture, ce qui me guide et m'intéresse d'abord, c'est la dignité de l'homme. Est-ce qu'on peut dire, Corinne Maury, que toute l'œuvre de Bélatar est presque résumée dans cette phrase ?
Alors, oui, et puis en même temps, il faut se méfier des grands mots. Comme
et des résumés.
Voilà. Pour commencer d'abord, je voudrais dire combien je suis émue par cette œuvre depuis 15 ans sur laquelle je travaille. C'est une œuvre qui est extrêmement contemporaine aujourd'hui, dans la manière aussi dont Bélatar a pu traiter, en fait, dans un travail politique, la question d'une fin des utopies. Mmh. Et je voudrais le dire haut et fort aujourd'hui devant vous, parce que cette fin des utopies, comme disait Miguel Abinsour, plus en fait l'utopie décroît, plus le totalitarisme croît. Et je crois que Bélatar est véritablement un grand visionnaire et vraiment un cinéaste d'une histoire au présent. Pour revenir sur cette question de la dignité, les premiers films de Bélatar, on l'a pas assez dit, sont des grands portraits aussi de femmes de la condition ouvrière, mmh. de femmes humiliées dans des situations de logement d'État, où elles sont dépendantes d'un patriarche autoritaire, d'une exclusion aussi, d'une violation, puisqu'il y a un viol de l'amie de Irène, d'une zigane. Donc Bellatar, entre le nid familial et rapports préfabriqués, il fait des portraits politiques féministes, hein, de ces femmes qui sont dans des situations d'enfermement, dans des situations d'attente, dans des situations de dépendance, dont les conditions matérielles, qui ne sont pas là pour vivre dignement, montrent à la fois une humiliation et une négation de l'existence.
Antoine Guillot, quand on découvre Bellatar, les films de Bellatar, c'est une expérience en général. On s'en souvient la première fois. Pendant longtemps, ces films n'ont pas été distribués en France. On pouvait les voir dans les festivals internationaux. C'est vraiment une question simple, mais je pense que c'est intéressant d'y venir par là. Vous, votre premier film, première rencontre.
Bah, ça a été comme tous les Français. En fait, le premier film qui a été distribué en France,
c'est
alors moi, je l'avais vu au Festival de Cannes. C'était en 2000. C'était Les Harmonies Werkmeister, qui était à la quinzaine des réalisateurs, l'ancêtre de la quinzaine des cinéastes d'aujourd'hui. Et c'est évidemment un choc inouï, parce que en plus, on rentre dans ce film par un premier plan qui dure une dizaine de minutes. On parlera de la grammaire de Bellatar plus tard, qui se passe dans un café avec un bon paquet d'ivrognes, puisque c'est le moment de la fermeture du café, et va s'organiser un ballet cosmique, un ballet des planètes, avec le soleil, la Terre, la Lune, expliquant à la fois quelque chose de l'ordre de l'astronomie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a des éclipses, mais qui nous fait rentrer tout de suite, alors qu'on est dans quelque chose de très terre-à-terre, dans quelque chose de cosmique. Voilà. Et la grande beauté, une des grandes beautés, parce que cette œuvre en recèle énormément, c'est précisément d'inscrire cette souffrance dont il parlait, cette humiliation, ces corps fatigués souvent, dans quelque chose qui les dépasse, qui nous dépasse tous et qui est de l'ordre de la cosmologie universelle et qui fait qu'on est forcément avec eux. Bellatar, c'est quelqu'un qui commence effectivement par des films de jeune homme en colère, enfin qui est révolté par ce qui se passe en Hongrie, par les conditions de vie et surtout par la dissonance entre ce qu'il vit, ce qu'il voit autour de lui et ce qu'il voit sur les écrans qui ne correspond pas du tout. Donc il va dire moi je vais vous montrer vraiment ce que c'est en faisant des films tout seul, en prenant une caméra 16 mm et en s'embarquant dans ce qui sera le nid familial. Et son film précédent, qui était un documentaire effectivement sur les Roms en Hongrie, et qui va être très très en colère. Et puis son cinéma évoluant, on parlera de sa rencontre avec Krasna Orkay, qu'il va adapter au cinéma, qui vient d'avoir le prix Nobel, hein,
donc
immense auteur, et qui sera le scénariste de ses films. Tout d'un coup, il va passer de la colère à quelque chose qui est de l'empathie profonde, c'est-à-dire qu'il est à plein avec les personnes qu'il filme. Et moi, j'ai le souvenir d'un court-métrage extraordinaire qu'il avait fait en 2004 qui s'appelle Prologue, où c'était un unique plan, un plan séquence, comme toujours il faisait, et qui suit ce qu'on ne comprend pas d'abord, parce que souvent il faut aussi du temps pour comprendre, mais c'est la beauté aussi de la durée des plans chez Bellatar, c'est qu'au fur et à mesure qu'il développe le plan, on comprend et on vit ce qui s'y passe, qui suivait une file d'attente. Et puis on se rend compte que c'est une soupe populaire. Et chaque personne qu'il va filmer, dans le froid, dans la pluie, dans la boue, va atteindre effectivement une dignité extraordinaire, simplement par le regard qu'il va poser sur eux.
Damien Marguet, je voudrais vous poser la même question. Vous, le film par lequel vous êtes entré dans l'œuvre de Bellatar?
Alors moi, c'est Damnation. C'est un film que j'ai découvert grâce à une enseignante, Sylvie Rollet, qui m'a fait découvrir le cinéma de Bellatar. Mais je me souviens vraiment de la rencontre avec ce film, parce que j'ai immédiatement compris que j'étais devant un cinéma qui me disait quelque chose du présent qu'aucun autre cinéaste ne m'avait fait sentir de cette manière. Mais c'est très intéressant que vous ayez commencé par cet extrait sonore, parce que moi aussi je voulais insister sur, pour commencer, sur la dimension politique finalement du cinéma de Bellatar, parce qu'on a découvert le cinéma de Bellatar, comme l'a très bien rappelé Antoine Guillot, par, disons, la deuxième partie de son œuvre. Donc cette œuvre très formaliste, avec ses longs plans séquences noir et blanc, et c'est ce qu'on retient souvent quand on parle de Bellatar, dont on a presque fait au départ un cinéaste métaphysique.
Ouais.
Mais la source de son cinéma, elle est politique. C'est un sentiment de révolte, comme il le dit, un refus d'accepter ce monde tel qu'il est. Mais c'est aussi le sentiment de révolte, c'est aussi celui qu'on éprouve devant des formes d'injustice ou de violence qui se perpétuent de manière obscène et désespérante, comme l'a souligné Corinne. Mmh. Et il y a une chose que je voulais dire, c'est que les êtres dont ils cherchent à rendre leur dignité, chez Tar, ça peut être des femmes ou des hommes, mais ça peut être aussi un animal, comme le cheval, dans Le Cheval de Turin. Hein. Ça peut être un territoire, comme la grande plaine hongroise dans Chatin Tango. Et il y a une chose qui est très importante pour moi dans le cinéma de Tar, c'est que c'est un cinéma de l'égalité radicale. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Jacques Rancière, le philosophe français, a été si sensible à son cinéma. C'est un cinéma où tous les êtres sont considérés de la même manière. Il n'y a ni perdant ni gagnant. Ceux qui tentent de se sauver sont aussi impuissants que ceux qui acceptent leur sort. Et je crois que la seule manière, justement, pour Tar de s'en sortir, de se sauver, c'était de faire du cinéma. Mmh. Et plus largement, d'explorer le champ de l'imaginaire et de la création. Et c'était ça, d'une certaine manière, le sens fondamental, je crois, de son œuvre.
Corinne Maury, Bellatar, donc on l'a dit, il a commencé par filmer avec sa révolte au point. La chute du mur ne l'a pas rassuré. Au contraire, ça n'a pas apporté un apaisement, en tout cas.
La chute du mur, concrètement, elle le fait passer d'une esthétique du dedans à une esthétique du dehors. Et la grande force, en fait, de ce cinéma politique, c'est de se servir de l'espace pour montrer, justement, une situation historique. Et dans cette manière de filmer l'espace, avec Dandmation, on va revenir à ce que le cinéma filme pas, c'est-à-dire les poubelles, la décharge, des sols de puits, des sols de boue, des surfaces sales, en fait. Mmh. Voilà. Et alors, une beauté, oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui filme la laideur des paysages, je dirais, dans une forme de sublime en négatif. Voilà. Et ce sublime en négatif, il est très présent chez lui, dans un excès, justement, de présence des choses. Pour continuer sur ce que disait Damien, cette question de l'égalité est importante, puisque le cinéma crée souvent des hiérarchies. Et évidemment, dans ces hiérarchies, on a souvent un centre perceptif, un foyer perceptif central qui est le personnage. Mmh. Ici, Carrère, l'homme de Damnation, c'est l'homme anonyme errant qui marche, qui attend, qui épie, encore des actions qu'on ne montre pas, et il en fait des situations radicales. Il revient à la racine, en fait, du réel, d'une temporalité. Qu'est-ce que ça veut dire, un être qui habite un espace qui est privé d'horizon? Voilà.
Antoine Guillaume.
La chute du mur, il la raconte presque en direct dans Chatin Tango, mais ce qui est visionnaire, effectivement, chez lui, c'est qu'il raconte le lendemain. Le lendemain de la chute, le lendemain de l'apocalypse, et il nous décrit exactement ce qui va se passer. C'est comme s'il le documentait en temps réel, c'est-à-dire les prévarications, les personnes qui vont essayer de se construire. Enfin, c'est les débuts de l'oligarchie, des oligarchies qu'on va voir apparaître partout dans l'espace post-soviétique. Mais c'est presque anecdotique chez lui. C'est-à-dire qu'il faudrait pas le réduire à ça. Moi, je me souviens, ma première rencontre avec Bellatar, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, c'était précisément au moment des harmonies Werkmeister, et je me creusais la tête pour essayer de comprendre si cette baleine qu'on visitait de l'intérieur, qui nous regardait avec cet œil mort, était une allégorie d'un régime qui s'était écroulé, etc. Et chaque fois que je tentais des hypothèses d'exégèse du film, je recevais des « no » en retour, et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que c'est précisément, ce sont des films, et c'est pas pour rien qu'il termine avec le Cheval de Turin, donc qui est une directe allusion à Nietzsche, hein, cet épisode fameux de Nietzsche voyant ce cheval se faire battre par son maître et perdant la raison à ce moment-là, sauf que lui, effectivement, il va s'intéresser au cheval et à son maître plutôt qu'au philosophe. Ce sont des films qu'il faut bien se garder de tenter d'expliciter, c'est-à-dire dire il fait ça parce que, mais qui par contre nécessite l'interprétation et ouvre une porte immense à ses spectateurs, parce qu'on peut les rêver, les délirer aussi, les habiter surtout, et c'est la grande générosité, je crois, du cinéma de Bellatar, c'est qu'il crée des espaces pour que le spectateur non pas voit, non pas réfléchisse le film, mais l'habite. L'habite réellement. C'est-à-dire qu'on vit, dans ces films, et j'aime pas beaucoup l'expression film-monde, c'est un peu galvaudé, mais sans doute que Bellatar est un de ces cinéastes qui crée des espaces pour le spectateur, pour les habiter et pour circuler à l'intérieur.
I'm not abstract.
Je ne suis pas un cinéaste abstrait.
I prefer to do a very simple movies.
Moi, je préfère faire des films très simples.
But in a different logic.
Mais en suivant une logique différente.
You know, this is also a question of the moral. If you are a real filmmaker, you have to show what you see around you.
Si vous êtes cinéaste, vous vous devez de montrer ce que vous voyez autour de vous.
And I see just simple human situations.
Et je porte mon regard sur des situations humaines très simples.
And I see some real emotions.
Et je perçois des émotions réelles.
And I see real human tragedies.
Et je vois de véritables tragédies humaines autour de moi.
And that's what I want to show you.
C'est ça que je veux vous montrer aux spectateurs.
And, you know, and I want to show you the normal people.
Et ce que je veux vous montrer, c'est la vie des gens normaux.
They are not running up and down with gun on the street.
Ils ne sont pas en train de courir partout dans les rues, l'arme au poing, non.
And what I tell you, no.
Or,
please
moi,
listen
for the
people. And I just show you somebody's eye.
C'est d'écouter les gens, et puis je veux vous montrer l'œil de cette personne qui m'a touché, parlé.
Or I just move it the camera and you can see the landscape.
Ou je déplace légèrement la caméra et derrière cet humain on voit un paysage.
And we just wanted to show you real emotions because I put it
my actors in a real émotions. Situation. Je place mes acteurs dans des situations réelles.
Voilà, Bellatar qui s'est éteint hier dans ses films, on vient de l'entendre le dire, hein, rien d'abstrait, rien de réel non plus. Comment vous définiriez la langue cinématographique de Bellatar, Corinne Maury?
Alors, je la définirais comme une langue exigeante, magistrale, radicale. Revenir sur ce thème abstrait, je voudrais dire quelque chose. Dans le sous-texte, c'est certainement encore un cinéma élitiste. Mmh. Donc, comme si finalement on devait penser d'un côté un cinéma populaire divertissant et un cinéma élitiste. Donc, cinéma exigeant, magistral, qui revient à la racine et qui montre le réel dans un excès de présence. Voilà. Et cette question de l'excès, permet justement chez lui de montrer une esthétique de la désintégration qui passe souvent par des formes, on l'a dit, non narratives, hein, d'attente, de placement dans l'espace. Et dans cette spatialisation, bah, il y a des éléments extrêmement forts comme l'appui. Il y a des éléments extrêmement forts aussi qui sont ce noir et blanc qui est effectivement, comme je disais tout à l'heure, une forme de sublime en négatif et une temporalité où dans ces plans séquences, on a vraiment le sentiment que les personnages sont enfermés, comme on peut pas en sortir. Et pour revenir aussi à cette question de l'égalité, la manière dont de travailler en fait un quotidien, mais ce quotidien où toute chose est filmée à égalité, c'est-à-dire un geste, une marche, une poubelle, une surface, et à partir de là, il fait révéler justement une situation politique du présent.
Damien Marguet, même question pour vous finalement, hein. Ce vocabulaire, cette grammaire, ces choix d'axes de caméra, l'absence quasi de champ contre champ, voilà, comment vous décririez ça?
Oui, alors je vais essayer de faire un lien entre cette question du plan séquence et cette manière dont Bellatar rapportait toujours des choses à du concret, à du matériel. Quand on lui disait, mais pourquoi est-ce que vous utilisez le plan séquence? Il disait, mais j'utilise pas le plan séquence pour les caractéristiques esthétiques du plan séquence, j'utilise le plan séquence parce que au cinéma, quand vous faites un plan séquence, toutes les personnes doivent être en même temps sur le plateau. Alors que quand vous faites des plans séparés, bah, les gens ne se rencontrent pas, vous avez des acteurs qui sont censés faire une scène ensemble, mais en fait, il y en a un qui est présent le lundi, puis l'autre vient le mardi, et donc ils ne sont jamais ensemble. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler de manière collective. Et donc il avait une réponse très concrète finalement sur cette manière de travailler. Mais alors ça, j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est très important de dire que le cinéma de Bellatar, c'est évidemment le cinéma d'un auteur magistral comme l'a dit Corinne, mais c'est un cinéma collectif aussi. Hein. C'est quelqu'un dont l'œuvre est dépendante d'un très grand nombre de rencontres avec d'autres artistes. Je pense à Agnès Ranitzky, qui a été l'épouse de Bellatar et qui l'a accompagné sur tout son travail, mais aussi à Mihály Vig, qui est le musicien attitré de Bellatar depuis le milieu des années 80 et qui joue lui-même dans Chatham Tango, ou alors à Laszlo Krasznahorkai, puisqu'on en a parlé, c'est une coïncidence un peu malheureuse, puisqu'il vient d'avoir le prix Nobel. Mais ce sont deux œuvres, l'œuvre de Laszlo Krasznahorkai et l'œuvre de Bellatar, qui sont intimement liées, puisque ce sont deux recherches esthétiques en littérature et en cinéma qui se prolongent, se répondent, se complètent. Donc quand on a vu un film de Bellatar, quand ça se termine, souvent on est tellement pris par cet univers qu'on a envie que ça se continue. Bah, il suffit d'ouvrir un roman de Krasznahorkai et d'une certaine manière on se replonge dans cet univers. Et pour terminer, je pense que justement si on se demande quel est le point commun entre les deux œuvres, eh ben c'est justement l'idée d'essayer de proposer une expérience sensible qui modifie notre manière de percevoir le monde et ses changements. Et moi, j'ai appelé ça une esthétique de la métamorphose, c'est-à-dire que chez Bellatar, comme ça a déjà été dit, il n'y a plus de hors-champ. Le changement vient toujours de l'intérieur du plan. Mmh. Tout paraît en constante évolution et les transformations, elles ne se font pas par le raccord, mais elles se font par la mutation de l'image. Enfin, ce sont les images de l'intérieur qui changent. Et d'une certaine manière, c'est une conception du temps qui rompt avec l'historicisme, c'est-à-dire avec notre tendance à segmenter le temps en passé, présent, futur. Là, on se confronte réellement à notre manière d'éprouver le temps réellement, c'est-à-dire à la durée, à l'expérience terrible de la durée, de la répétition, de la continuité. Voilà. Et les évolutions se font de l'intérieur et par mutation plutôt que par rupture radicale.
Ouais, Antoine Guillot, le temps effectivement est important dans son travail. Il y a quelque chose de la boucle, de la répétition.
Oui, enfin, il y a pas tant de la répétition, mais il y a quelque chose de la mélopée. C'est oui. Important qu'on ait cité Mihaly Livik, parce que quand on sort d'un film de Bellatar, non seulement on a l'impression d'être encore dans le film, comme ça vient d'être dit, mais on a cette musique en tête qui, elle, fonctionne effectivement sur la répétition, musique un peu minimaliste et complètement entêtante. Mais le temps, c'est de l'espace, réellement, chez Bellatar. Quand, dans un film de Bellatar, vous vous déplacez d'un point A à un point B, vous vous déplacez réellement d'un point A à un point B. On n'a pas une information qui vous dit il part, il est au milieu et il arrive. Et c'est ce sentiment-là que vous avez. Et vous ne perdez pas votre temps, puisque pour le coup, vous vivez réellement l'expérience de se déplacer. Et pour revenir aux harmonies Werkmeister, je me souviens de ces grandes traversées de cette ville et de ces foules qui tout d'un coup s'amassent. C'est-à-dire, c'est aussi un chorégraphe extraordinaire, Bellatar. C'est peut-être un des plus grands chorégraphes contemporains dans sa façon de structurer les mouvements dans ses plans. Je ne sais pas combien de temps ça prenait à se mettre en place, à se répéter, etc. Mais ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que c'est pas un cinéaste tape à l'œil, loin de là. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va dire regardez ce plan séquence incroyable que je vous fais, comme c'est souvent la tendance dans certains films où le plan s'affiche pour lui-même. C'est-à-dire qu'on oublie ça, on est complètement dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du montage, de la restructuration du lieu. Je crois que Damnation avait été tourné dans 9 villes différentes de Hongrie pour créer ces espèces de non-lieux qu'il nous fait habiter. Je voudrais citer, je crois que il y a quelque chose de profondément hongrois dans cette manière d'appréhender l'espace et le temps. C'était Miklós Jánosso qui était son grand maître de cinéma, lui aussi grand artiste du plan séquence, qui disait « Les Hongrois ont toujours l'impression d'être prisonniers d'un espace immense. » Et c'est exactement cette sensation qu'on a, comme on l'a dit précédemment.
Je pense que ce serait intéressant à ce stade de revenir sur l'importance du son, de la bande-son. Vous avez cité la pluie, le vent, les éléments, Corinne Maury.
Alors oui, sur cette question de la bande-son, l'appui, elle apparaît véritablement avec Damnation. Et l'appui, c'est l'appui muraille, c'est-à-dire que d'une certaine façon, elle est à l'opposé aussi d'une autre œuvre, qui est l'œuvre de Tarkovsky. Bellatar disait, voilà, chez Tarkovsky, l'appui lave les individus. Hein. C'est une révélation aussi. Elle a un poids mystique, elle a un poids évidemment liturgique. Et chez lui, bah voilà, c'est une pluie sale et une pluie boueuse. Et elle ne lave rien du tout. Hein. Elle ne fait qu'accentuer la désintégration en fait dans le monde, quelque chose qui s'enlise, qui se défait, un espèce de chaos en fait par des microcosmes. Hein. Donc cette pluie, elle revient aussi beaucoup avec sa tatango, avec le docteur alcoolique qui glisse. Elle est d'une certaine manière extrêmement virulente et en même temps, elle empêche quelque chose toujours. Elle empêche en fait l'existence de se déployer. Donc c'est une pluie qui est absolument pas symboliste, qui est absolument pas sentimentale, c'est pas la pluie ornementale, c'est une pluie physique, c'est une pluie concrète, c'est une pluie qui marque une virulence, encore une fois, dans l'espace, où les chiens errants, puisque si on revient à l'animal, cette question des chiens errants et de la pluie et de la brume, c'est montré aussi par l'animalité, puisque l'animal chez Bellatar, c'est souvent l'animal mort. On le voit avec le chat dans sa tatango, hein, qui est la petite estique fait ingérer en fait de la morora au chat. On le voit avec évidemment ces vaches aussi qui piétinent dans l'ouverture de sa tatango. Mmh. Donc cette pluie, elle est présente aussi d'une espèce de pâte boueuse dans l'ouverture de Damnation. L'homme de dos qui attend, il regarde un paysage qui est défait. Donc c'est la pluie, elle montre là le paysage, presque un paysage d'une certaine manière qui n'est plus le beau paysage contemplatif. On dit souvent Bellatar et l'espace contemplatif. Mmh. Non, c'est pas contemplatif. C'est véritablement un paysage en négatif. Il y a quelque chose qui ne... L'existence ne se révèle plus comme quelque chose du possible.
Mmh. Damien Marguet, sur cette question de l'importance du son chez Bellatar, il nous reste peu de temps, je vous l'avoue.
Sur le son, je crois que Corinne a très bien dit. C'est, effectivement, il y a dans le son, le son accompagne, et cette pluie très présente accompagne cette idée d'une sorte de délitement, de dégradation progressive du monde. Et en fait, c'est intéressant parce que nous on a tendance à voir de l'Ouest, à percevoir l'histoire hongroise comme une histoire de rupture, avec notamment cette rupture de 1989. Mmh. Alors qu'en réalité, il s'est agi d'une longue déliquescence. Il faut rappeler que Bellatar est né en 1955, donc juste un an avant la révolution avortée de 1956, ouais. Et qu'il a grandi dans un pays qui était littéralement sclérosé politiquement, et tout son cinéma finalement tend à rendre compte de cette situation de gel d'une certaine manière politique, et de savoir comment on fait, comment on répond à une situation de désespoir et d'inspuissance politique. Et donc je crois que dans un premier temps, avec son cinéma documentaire très inspiré de ce qui se faisait en Hongrie à l'époque, hein, où le genre de la fiction documentaire était très pratiqué, notamment au sein du studio Béla Balázs, où Bellatar a fait ses premières armes, l'idée c'était de retrouver un rapport au réel, un contact, une relation au réel qui avait été totalement tordue par le pouvoir, et que ça passe justement par une expérience de la durée, parce que dès ses premiers films, même si le montage est beaucoup plus rapide. Tard construit une impression de continuité, de temps réel, qui nous permet justement d'accéder à ce sentiment de réel.
Merci. Et puis après, avec le délit. Merci, Damien Marguet. Pardon, je vous coupe la parole parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Excusez-moi, on aurait pu parler encore très longtemps. Merci Damien Marguet. Je rappelle Bellatar, les métamorphoses d'un visionnaire, paru chez Carlotta. Merci Corinne Maury. Bellatar, de la colère au tourment, publié en 2016 aux éditions Yellow Now. Et Antoine Guillon, on vous retrouve samedi dans Plan Large, sur France Culture, à 13h30. Quant à vous qui nous écoutez, bien restez dans les parages. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Émilie. Thank you.